From the conference center at Temple
Square. Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise d'Aaron de Pieux de West Jordan en Utah. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, dirigera la session de ce soir.
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session générale de prêtrise de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis dans le tabernacle, l'Assembly Hall, le Marriott Center de l'Université Brigham Young, le centre de formation des missionnaires de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise d'Aaron, des pieux de West Jordan en Utah, dirigé par Neil Hendrickson et accompagné à l'orgue par Andrew Hansworth. Nous commencerons cette session de la prêtrise en écoutant le chœur chanter « Tout au sommet des monts ». Ensuite, Dennis P. Neunschwander, qui a été relevé cet après-midi de son appel parmi les 70, fera la prière d'ouverture.
Notre Père Céleste, c'est un honneur d'être unis en tant que dirigeant détenteur de la prêtrise. Nous te demandons de bénir cette réunion en accord avec ton esprit afin que nous soyons instruits, édifiés, par les dirigeants loin de ton Église. Nous te prions de nous permettre d'appliquer ce que nous allons entendre partout où nous serons appelés à servir. Nous sommes bien conscients, Père, que des frères et sœurs portent l'uniforme de différents pays dans le monde. Nous te prions de les bénir. Veuille entendre les prières des membres de leur famille qui demandent la paix dans un monde dangereux, difficile. Nous te prions aussi que nous, détenteurs de la prêtrise, soyons les artisans de la paix partout où nous sommes, par la qualité du service que nous rendons. Notre Père Céleste, ouvre notre cœur, notre esprit aux paroles, aux discours de cette soirée. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur va maintenant chanter « Adou, c'est l'heure de prier ». Après le cantique, M. Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres, s'adressera à nous. Ensuite, nous entendrons Walter F. Gonzalez de la présidence des 70. Il sera suivi de Yoon Hwan Choi des 70.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. C'est beau de vous voir tous, Père, assis côte à côte avec vos fils, pour écouter les enseignements du Seigneur et pour recevoir les recommandations des autorités générales. C'est toujours une joie d'être unis avec les hommes et les jeunes gens de la prêtrise. Mais il y a quelque chose de spécial à voir père et fils ici ensemble. C'est un rappel visuel de deux des éléments les plus puissants de notre théologie, la prêtrise et la famille. La prêtrise est le pouvoir divin par lequel les familles sont scellées ensemble, pour toujours. Tout dans l'évangile rétabli de Jésus-Christ, notamment les ordonnances du Saint-Temple, est centré sur la possibilité qu'a chaque famille de devenir membre de la famille éternelle de Dieu. Pères et fils, je vais ce soir vous parler de la façon dont vous parlez entre vous. Il n'y a pas d'autre relation qui vaille autant que celles qui peuvent et devraient exister entre un garçon et son père. Elles peuvent être parmi les relations les plus enrichissantes et les plus joyeuses de la vie. Des relations qui peuvent avoir un impact profond sur le devenir, non seulement des garçons, mais aussi des pères. Je sais bien que certains d'entre vous, jeunes gens, n'ont pas de père avec qui vous puissiez avoir ce genre de conversation. Et parmi vous, les hommes, il y en a qui n'ont pas de fils ou ont perdu leur fils par suite d'un accident ou d'une maladie. Mais une grande partie de ce que je vais dire ce soir s'applique aux oncles, aux grands-pères, aux dirigeants de la prêtrise et à d'autres mentors qui comblent parfois le vide dans ces relations importantes entre père et fils. Voyez-vous, nous sommes tous en voyage. Les pères sont un petit peu plus loin sur la route, mais aucun de nous n'est encore arrivé à sa destination finale. Nous sommes tous en train de devenir ce que nous serons un jour. Pères et fils peuvent jouer un rôle capital en s'aidant mutuellement à devenir ce qu'ils peuvent être de mieux. Je sais que les rapports père-fils ne sont jamais parfaits, mais tout ce que je vais vous proposer ce soir est possible, si vous faites l'effort nécessaire pour que cela arrive. Jeunes gens, vous faites la fierté et la joie de votre père. Il voit en vous un avenir prometteur et son espoir que vous serez une version meilleure, améliorée de lui-même. Vos réalisations font sa joie. Vos soucis et vos problèmes sont les siens. Père, vous êtes le modèle principal de l'adulte pour vos fils. Vous êtes leur mentor le plus important. Et que vous le croyez ou non, vous êtes à d'innombrables égards leur héros. Vos paroles et votre exemple ont une grande influence sur eux. Ce soir, je veux vous faire à vous, jeunes gens, trois suggestions simples sur la façon dont vous pouvez profiter pleinement de vos relations avec votre père. Je veux ensuite vous faire à vous, père, trois suggestions concernant vos relations et votre façon de communiquer avec vos fils. Détenteur de la prêtrise d'Aaron, je crois qu'en faisant ces trois choses, vous pouvez rendre vos relations avec votre père encore meilleures que ce qu'elles sont déjà. D'abord, faites confiance à votre père. Il n'est pas parfait, mais il vous aime et ne ferait jamais rien qu'il ne considérerait pas être dans votre intérêt. Aussi, parlez-lui. Faites-lui part de vos réflexions, de vos sentiments, de vos rêves et de vos craintes. Plus il en sait sur votre vie, plus il aura de chances de comprendre vos soucis et de vous donner de bons conseils. Quand vous faites confiance à votre père, il sent la responsabilité qui accompagne cette confiance et s'efforce plus que jamais de comprendre et d'aider. Parce qu'il est votre père, il a droit à l'inspiration en votre faveur. Les conseils qu'il vous donnera seront l'expression sincère de quelqu'un qui vous connaît et vous aime. Votre père veut plus que toute autre chose que vous soyez heureux et que vous réussissiez. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas faire confiance à quelqu'un comme cela? Garçon, faites confiance à votre père. En second lieu, intéressez-vous à la vie de votre père. Interrogez-le sur son travail, ses intérêts, ses buts. Comment a-t-il décidé de faire le travail qu'il fait? Comment était-il à votre âge? Comment a-t-il rencontré votre mère? En apprenant plus sur lui, vous pourrez constater que ces expériences vous aideront à mieux comprendre pourquoi il réagit comme il le fait. Observez votre père. Regardez comment il traite votre mère. Regardez comment il accomplit ses appels dans l'Église. Regardez comment il agit avec les autres. Vous serez étonné par ce que vous apprendrez sur lui, rien qu'en l'observant et en l'écoutant. Pensez à ce que vous ne savez pas de lui et découvrez-le. Votre amour, votre admiration et votre compréhension augmenteront par ce que vous apprendrez. Jeunes gens, intéressez-vous à la vie de votre père. Et troisièmement, demandez conseil à votre père. Soyons francs. Il va probablement vous donner ses conseils, que vous les demandiez ou pas. Mais cela marche tellement mieux quand vous demandez. Demande-lui conseil sur l'activité dans l'église, les cours, les amis, l'école, les sorties avec les filles, le sport ou d'autres passe-temps. Demandez-lui conseil à propos de vos appels dans l'église, de votre préparation pour votre mission, des décisions que vous devez prendre ou des choix que vous devez faire. Rien ne montre autant le respect pour quelqu'un que le fait de lui demander conseil, parce que ce qu'on dit, en fait, quand on demande conseil, c'est « Je me rends compte de ce que tu sais et des expériences que tu as eues, et j'estime tes idées et tes suggestions. » Ce sont des choses extrêmement agréables à entendre de la part de son fils. D'après mon expérience, les pères à qui l'on demande conseil s'efforcent d'en donner de bons, de sages et d'utiles. En demandant conseil à votre père, non seulement vous bénéficierez de ses idées, mais vous lui donnerez également une petite motivation supplémentaire d'être un meilleur père et un meilleur homme. Il réfléchira plus soigneusement aux conseils qu'il donne et il fera plus d'efforts pour calquer sa conduite sur ses paroles. Jeunes gens, demandez conseil à votre père. Père, à votre tour. Parlons de ce que vous pouvez faire pour améliorer vos relations avec vos fils. Vous noterez qu'il y a un certain rapport entre les trois suggestions que je vais vous faire et les trois que je viens de faire à vos fils. Ce n'est pas par hasard. D'abord, père, écoutez vos fils. Écoutez-les vraiment. Posez les bonnes questions et écoutez ce qu'ils ont à dire chaque fois que vous passez quelques minutes ensemble. Vous devez savoir, pas deviner, mais savoir ce qui se passe dans la vie de vos fils. Ne supposez pas que vous savez ce que votre fils ressent juste parce que vous avez été jeune autrefois. Vos fils vivent dans un monde très différent de celui dans lequel vous avez grandi. Quand ils vous parlent de ce qui se passe, vous devez écouter très attentivement et sans porter de jugement afin de comprendre ce qu'ils pensent et vivent. Trouvez votre meilleure façon de vous rapprocher. Certains pères aiment emmener leur fils à la pêche ou à une manifestation sportive. D'autres aiment faire une promenade ou travailler côte à côte au jardin. D'autres encore se sont aperçus que leur fils aime parler le soir, juste avant d'aller au lit. Faites ce qui marche le mieux pour vous. Vous devriez avoir couramment des rencontres en tête à tête avec vos fils. Tout père a besoin d'au moins une conversation ciblée, de qualité, avec ses fils chaque mois, au cours de laquelle il parle de choses précises, telles que les études, les amis, les sentiments, les jeux vidéo, les textos, la dignité, la foi et le témoignage. L'endroit ou le moment ne sont pas aussi importants que le fait qu'elle ait lieu. Et s'il y a besoin d'une bien une chose dont les pères ont besoin, c'est d'écouter. Rappelez-vous, une conversation où vous parlez 90% du temps n'est pas une conversation. Dans vos discussions avec vos fils, utilisez le mot « penser » aussi souvent que vous êtes à l'aise de le faire. Demandez « Qu'est-ce que tu penses de ce que tu apprends dans ce cours? Que penses-tu de ce que ton ami a dit? Que penses-tu de ta prêtrise et de l'Église? Ne vous croyez pas tenu de tout régler ou de tout résoudre pendant ces conversations. La plupart du temps, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est simplement écouter. Les pères qui écoutent plus qu'ils ne parlent constatent que leurs fils en disent davantage sur ce qui se passe vraiment dans leur vie. Père, écoutez vos fils. En second lieu, priez avec et pour vos fils. Donnez-leur des bénédictions de prêtrise. Un fils qui s'inquiète pour un examen important ou pour un événement spécial ne pourra que tirer profit d'une bénédiction de la prêtrise de son père. Des occasions comme le début d'une nouvelle année scolaire, un anniversaire, ou le moment où il commence à sortir, peuvent être des moments opportuns pour demander au Seigneur de bénir votre fils. Une manière de vous rapprocher l'un de l'autre ainsi que du Seigneur peut être de prier ensemble et de vous rendre témoignage. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous, pères, ont du chagrin à cause de fils qui se sont égarés et sont capturés par le monde, tout comme Alma et Mosia s'inquiétaient pour leurs fils. Continuez de faire tout ce que vous pouvez pour entretenir des relations familiales fortes. N'abandonnez jamais, même lorsque tout ce que vous pouvez faire, c'est prier avec ferveur en leur faveur. Ces fils précieux sont vos fils pour toujours. Père, priez avec vos fils et bénissez-les. Troisièmement, osez parler des choses de la vie avec vos fils. Vous savez ce que je veux dire. Des conversations sur la drogue et l'alcoolisme, sur les dangers des médias d'aujourd'hui, de l'Internet, des cybertechnologies et de la pornographie. Et sur la dignité pour la prêtrise, sur le respect pour les filles et sur la pureté morale. Ce ne sont pas les seuls sujets dont vous devriez parler avec vos fils, mais ne les évitez pas. Vos garçons ont besoin de vos conseils, de vos recommandations et de vos idées sur ces sujets. Vous verrez qu'en parlant de ces sujets très importants, la confiance entre vous grandira. Je tiens particulièrement à ce que nous communiquions ouvertement et clairement avec nos fils à propos de la sexualité. Vos fils grandissent dans un monde qui embrasse et affiche ouvertement des relations sexuelles précoces, sans engagement et irréfléchi. Vos fils ne peuvent tout simplement pas éviter les images, les messages et les incitations sexuelles flagrantes dont ils sont entourés. Les pères et les dirigeants de l'Église doivent avoir des discussions franches et fréquentes qui enseignent et clarifient comment les jeunes hommes de la prêtrise traitent ce problème. Faites bien passer le message que les relations intimes peuvent être merveilleuses et belles quand elles se produisent dans les limites que le Seigneur a fixées, notamment dans les alliances et les engagements du mariage éternel dans le temple. Les études montrent que ce qui dissuade le plus d'avoir une activité sexuelle sans engagement est une attitude saine qui rattache ses rapports personnels à l'engagement véritable et à l'amour mûr. Père, si vous n'avez pas eu cette conversation sur les choses de la vie avec vos fils, ayez-la, et vite. Pour terminer, je veux vous parler à vous, jeunes qui êtes rentrés de mission. Tout ce que j'ai dit ce soir s'applique aussi à vous. Faites confiance à votre père. Vous pouvez être plus proche de lui maintenant que jamais. Quelles qu'aient été vos relations avant votre mission, pendant les quelques années à venir, vous allez prendre les décisions les plus importantes de votre vie. Parallèlement à la prière à votre Père Céleste, les conseils de votre Père Terrestre peuvent vous aider à prendre ces décisions au sujet de vos études, de votre choix de carrière et du mariage. La décision la plus importante que vous prendrez dans cette vie sera la décision d'épouser dans le temple la jeune fille qui vous convient. Bien qu'il ne faille pas précipiter cette décision importante, tous les jeunes qui rentrent de retour devraient y travailler. Soyez là où vous pouvez rencontrer le bon genre d'amis et sortez en couple. Traîner ensemble n'est pas la bonne manière et cela ne suffit pas. Faire la cour semble être un art perdu. Redécouvrez-le. Ça marche. Demandez à votre père, il sait. Ne vous laissez pas aller à la façon de faire du monde. Conservez plutôt la dignité et l'esprit que vous avez connu en mission. L'Église aura besoin de vos capacités de dirigeant à l'avenir. Père, les trois suggestions que je vous ai faites il y a quelques instants s'appliquent absolument à vos rapports avec vos fils qui rentrent de mission. Écoutez-les et établissez des liens avec eux lors de conversations régulières et ciblées. Parlez avec eux en détail de leurs sentiments et de leurs aspirations. Priez avec eux et donnez-leur des bénédictions maintenant qu'ils abordent les décisions importantes pour leur avenir. Je suis reconnaissant pour mes fils, mes gendres, qui m'ont tellement enseigné. Et je prie que notre Père Céleste bénisse chacun d'entre nous en tant que père et fils, que nous honorions notre prêtrise, que nous aimions les uns les autres, en faisant de nos relations mutuelles l'une des grandes priorités éternelles de notre vie. Et priorité. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a de nombreuses années, un groupe de détenteurs de la prêtrise digne a enseigné avec puissance et autorité. L'un d'eux était si puissant qu'il était impossible de ne pas croire en ses paroles. Ces détenteurs de la prêtrise ont aidé des gens à connaître le Sauveur et sa doctrine, et les ont aidés à trouver le bonheur. Leur enseignement et leur exemple ont été le moyen par lequel les gens ont éprouvé un grand changement de cœur. Nous apprenons que des milliers de personnes ont été conduites par eux au baptême et ont fait alliance de persévérer jusqu'à la fin. Je parle des grands missionnaires du Livre de Mormon, qui étaient de puissants détenteurs de la prêtrise. Nous pouvons beaucoup apprendre de ces enfants de Léhi. En faisant ce qu'ils ont fait, nous pouvons devenir plus puissants à faire du bien aux fils et aux filles de notre Père Céleste, plus puissants à servir et à secourir autrui, et plus puissants à devenir des hommes plus semblables au Christ. Alma le jeune nous enseigne l'une des choses qu'ils ont faites pour si bien réussir. Ils ont utilisé les annales desquelles le Livre de Mormon a été tiré. Quand il donne à son fils Elaman les annales qui vont devenir le Livre de Mormon, Alma enseigne que sans ces plaques, Amon et ses frères n'auraient pas pu convaincre tant de milliers de Lamanites. Il ajoute, « Oui, ces annales et leurs paroles les ont amenés au repentir. » Dieu a montré son pouvoir par les plaques en accomplissant un objectif, le retour de nombreux milliers de Lamanites à la connaissance de la vérité. Alma prophétise ensuite que Dieu va montrer encore son pouvoir en elle aux générations futures. Tout comme dans les temps anciens, nous pouvons être des détenteurs de la prêtrise plus puissants en utilisant le Livre de Mormon. La parution du Livre de Mormon ne peut être comparée à celle d'aucun ouvrage littéraire de l'histoire de l'humanité. Nous pourrions dire que c'est un livre qui a été préparé par le doigt même de notre Dieu. Durant sa visite dans l'Amérique ancienne, le Seigneur a demandé à Néphi d'apporter les annales qui étaient tenues et de lui présenter. Jésus les a regardées et a commandé d'y ajouter certains événements et passages. Et il dit, « Ces écritures que vous n'aviez pas avec vous, le Père a commandé que je vous les donne, car il était dans sa sagesse qu'elles fussent données aux générations futures. » j'éprouve une reconnaissance éternelle d'appartenir à ces générations futures. Je suis aujourd'hui membre de l'Église grâce au Livre de Mormon. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand, jeune garçon en Uruguay, j'ai lu ce livre sacré pour la première fois. Je n'ai pas eu besoin de lire beaucoup du premier Néphi pour éprouver une joie inexprimable. C'était comme si le livre était imprégné de l'Esprit du Seigneur. Il me faisait me sentir plus proche de Dieu. Cette expérience concrétisait la déclaration de Joseph Smith, le prophète, au sujet de ce livre, quand il a dit qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Je reconnais aussi la véracité de la promesse du président Monson qui a dit que lorsque nous lisons le livre de Mormon et les autres ouvrages canoniques, si nous mettons les enseignements à l'épreuve, nous saurons si la doctrine, car cela nous est promis, nous saurons si elle est de l'homme ou de Dieu. Ces promesses nous apportent de la joie maintenant et le feront à l'avenir. Lorsque j'ai eu le témoignage du livre de Mormon, le sentiment qui a suivi naturellement a été le désir d'appliquer les enseignements du livre en contractant des alliances. J'ai contracté des alliances en me faisant baptiser et confirmer membre de l'Église. Ces alliances, contractées dans les ordonnances de la prêtrise et la connaissance acquise dans le livre de Mormon, ont changé ma vie. Il n'est pas surprenant que lorsqu'il s'est rendu dans l'Amérique ancienne, en plus d'enseigner la doctrine, le Sauveur ait aussi donné à Néphi et à d'autres le pouvoir de baptiser. En d'autres termes, la doctrine et les ordonnances allaient de pair. La pleine application des enseignements du livre de Mormon requiert les ordonnances de la prêtrise et les alliances qui leur sont associées. Il y a des livres qui sont publiés et qui deviennent rapidement des best-sellers. Ils soulèvent parfois tant d'intérêt que des gens attendent impatiemment leur parution. Ces livres semblent tout de suite inonder le marché et l'on peut voir partout des gens les lire. Dieu, dans sa sagesse infinie, a réservé le livre de Mormon à notre seul profit. Son but n'est pas de devenir le mieux vendu, mais nous pouvons en faire le livre sacré, le mieux lu et le mieux appliqué dans notre vie. Je vous suggère trois choses qui peuvent nous aider à faire du livre de Mormon le livre le mieux lu et le mieux appliqué, ce qui nous permettra aujourd'hui de devenir des détenteurs de la prêtrise plus puissants, comme ceux de jadis. Premièrement, nous faire un festin des paroles du Christ. Nous devons lire le livre de Mormon pour nous faire un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Se faire un festin des paroles du Christ est une expérience unique. Lorsque nous lisons en cherchant les principes et les points de doctrine qui nous aideront dans la vie quotidienne, notre enthousiasme est ravivé. Par exemple, lorsque la génération montante rencontre des difficultés face à la pression de son entourage, nous pouvons lire le livre de Mormon en recherchant particulièrement les enseignements qui l'aideront à se résoudre ce genre de difficultés. L'un de ces enseignements se trouve dans l'expérience de Lémuel. Lémuel a fait des mauvais choix parce qu'il a cédé à la pression exercée par l'amant. Il n'a pas fait ce qu'il fallait parce qu'il ne connaissait pas la manière d'agir du Dieu qu'il avait créé. Cet épisode peut nous enseigner que si nous apprenons comment Dieu agit avec nous, cela nous aidera à résister à la pression de notre entourage. Le livre de Mormon contient d'autres enseignements et exemples sur ce sujet, et nous sommes les générations qui peuvent bénéficier des enseignements de ce livre merveilleux. Deuxièmement, appliquer dans notre vie tout ce que nous apprenons sur le Christ. Lire le livre de Mormon en cherchant les qualités du Christ est une expérience très édifiante. Par exemple, le frère de Jared a compris que le Seigneur est un Dieu de vérité et qu'il ne peut donc pas mentir. Quelle grande espérance cet attribut apporte à mon âme. Toutes les promesses du livre de Mormon et les promesses faites par les prophètes vivants aujourd'hui s'accompliront parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas mentir. Même à notre époque troublée, nous savons que tout se passera bien si nous suivons les enseignements du livre de Mormon et des prophètes vivants. Lorsque nous trouvons une qualité du Christ, comme celle que le frère de Jared a trouvée, nous devons nous efforcer de l'acquérir nous-mêmes. Cela nous aidera à devenir des détenteurs de la prêtrise plus puissants. Troisièmement, enseigner la doctrine et les principes énoncés dans les pages sacrées du livre de Mormon. Nous pouvons instruire n'importe qui à l'aide de ce livre. Pouvez-vous imaginer le pouvoir de conviction de Dieu qui se manifeste quand les missionnaires et les membres de la famille citent, lisent ou répètent par cœur les paroles mêmes du livre? Je me souviens d'une mission en Équateur dont les missionnaires utilisaient le livre de Mormon partout où ils allaient. Grâce à eux, des milliers de personnes ont connu un grand changement de cœur et ont décidé de faire des alliances par les ordonnances sacrées de la prêtrise. Le livre de Mormon est un instrument précieux pour trouver et convertir les gens qui recherchent honnêtement la vérité et pour ramener beaucoup de nos frères et sœurs non pratiquants à l'Évangile. Je sais que la famille est fortifiée quand elle applique les enseignements de ce livre merveilleux. Beaucoup de nos enfants seront sauvés parce qu'ils se souviendront, comme Enos s'en est souvenu, des paroles qu'il avait souvent entendues son père dire concernant la vie éternelle, et grâce à cela, il a su que ses péchés étaient pardonnés grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Vous et moi, qui faisons partie des générations futures dont il est parlé, nous pouvons être des détenteurs de la prêtrise plus puissants en utilisant le livre de Mormon et en respectant nos alliances de la prêtrise. Le livre de Mormon témoigne de Jésus, le Christ, et je témoigne aussi de lui. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je vais vous parler d'un groupe de jeunes gens bruyants qui est entré dans ma vie lorsque j'étais un jeune évêque à Séoul, en Corée, il y a de nombreuses années. C'étaient des garçons qui vivaient dans le quartier. Seuls un ou deux d'entre eux étaient membres de l'Église à cette époque. Ceux qui étaient membres étaient les seuls de leur famille à l'être. Ils étaient tous amis et venaient à l'Église pour jouer et être ensemble. Ils aimaient jouer au ping-pong pendant la semaine et faire des activités amusantes le samedi. La plupart d'entre eux n'étaient pas bons à l'école et beaucoup de gens les considéraient comme des perturbateurs. À l'époque, j'avais deux jeunes filles de 7 et 9 ans. Je ne savais pas quoi faire pour ces jeunes gens. Ils chahutaient tant qu'un jour ma femme, Bong Kyung, m'a demandé si nous pouvions déménager dans une autre paroisse pour que nos fils aient l'exemple d'autres jeunes gens. J'ai médité et prié mon Père Céleste de m'aider à trouver le moyen d'aider ces jeunes. Finalement, j'ai pris la décision d'essayer de leur enseigner comment ils pourraient changer leur vie. Une vision m'est clairement venue à l'esprit. J'ai senti que leur vie changerait s'ils devenaient missionnaires. Aussitôt, cela m'enthousiasmait et j'ai essayé de passer le plus de temps possible avec eux, de leur enseigner l'importance du service missionnaire et la façon de s'y préparer.
À cette époque, frère Seo, missionnaire à plein temps, a été muté dans notre paroisse. Il avait grandi dans l'église et avait participé à des chorales de jeunes gens avec ses amis lorsqu'il était à la prêtrise d'Aaron. Il a rencontré ces garçons turbulents dans notre paroisse. À ceux qui n'étaient pas membres, il a enseigné les leçons missionnaires et il leur a aussi appris les chants qu'il avait l'habitude de chanter. Il a formé un triple quatuor avec eux et les a appelés le quatuor Hanaro, qui signifie être un. Ils étaient heureux de chanter ensemble, mais il nous fallait à tous beaucoup de patience quand nous les écoutions. Les membres pouvaient venir chez nous quand ils le voulaient. Ces jeunes gens nous rendaient visite presque tous les week-ends et parfois même en semaine. Nous leur donnions à manger et nous les instruisions. Nous leur enseignions les principes de l'Évangile ainsi que la manière de les appliquer. Nous essayons de leur montrer ce que pourrait être leur vie future. Ils chantaient ensemble chaque fois qu'ils venaient à la maison. Leurs notes bruyantes nous faisaient mal aux oreilles. Mais nous les félicitions toujours, parce que les entendre chanter était beaucoup plus agréable que de les voir s'attirer des ennuis. Cela a continué pendant des années. La plupart de ces jeunes gens ont mûri dans l'Évangile et un miracle s'est produit. Avec le temps, 9 des jeunes qui n'étaient pas membres se sont fait baptiser. Des garçons bruyants et bagarreurs qu'ils étaient, ils sont devenus de vaillants jeunes guerriers. Ils sont allés en mission, ont rencontré de belles jeunes sœurs dans l'église et se sont mariés au temple. Bien sûr, ils ont eu chacun des difficultés différentes lorsqu'ils sont partis en mission, ont fait des études et se sont mariés. Mais ils sont tous restés fidèles parce qu'ils voulaient obéir à leurs dirigeants et plaire au Seigneur. Maintenant, ils ont une famille heureuse et des enfants nés dans l'Alliance. En comptant leurs femmes et leurs enfants, ces 9 jeunes bruyants sont devenus 45 membres pratiquants du royaume du Seigneur. Ils sont maintenant des dirigeants de leur paroisse et de leur pieu. L'un est évêque, 2 font partie d'un épiscopat, un autre est membre d'un grand conseil, et 2 autres sont présidents des jeunes gens. On trouve parmi eux un dirigeant de mission, un secrétaire exécutif et un instructeur du séminaire. Ils continuent de chanter ensemble. Et autre miracle, ils chantent bien. Deux principes de base ont aidé ces jeunes gens à devenir semblables au fils des lamans. Leur mère n'était pas membre de l'église et ne comprenait pas les paroles du Seigneur, mais les dirigeants de la prêtrise sont un peu devenus leur père et les femmes des dirigeants leur mère. Ces 9 jeunes, que j'appelle les garçons du Seigneur, ont appris qu'ils seraient bénis s'ils écoutaient les dirigeants de l'Église, même s'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi. Ils sont devenus comme Adam, notre premier père, à qui un ange a demandé, lorsqu'il avait fait une offrande au Seigneur, « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Adam lui a répondu, « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Ils ont éprouvé le grand désir d'être obéissants et de servir le Seigneur de tout leur cœur. Ils ont également appris qu'il était très important d'assister à leur réunion de l'Église. Dans un discours intitulé « Jeunes de noble naissance », Ezra Taft Benson a dit « Je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'importance d'assister à toutes vos réunions de l'Église. L'assistance fidèle aux réunions de l'Église apporte des bénédictions que vous ne pouvez recevoir d'aucune autre façon. En allant régulièrement à leurs réunions de l'Église, ces jeunes ont ressenti le grand amour du Seigneur et ont appris comment appliquer la doctrine et les principes de l'Église dans leur vie quotidienne. Ils ont aussi appris à participer aux réunions avec beaucoup de joie et de bonheur. 3 de nos fils, y compris le Benjamin, sont nés lorsque j'étais évêque. Quand nos fils ont grandi, ces 9 jeunes gens sont devenus les dirigeants de la paroisse et du pieu. Ils ont été les instructeurs et les dirigeants de nos fils. Ils ont instruit nos fils et d'autres garçons de la même manière que je les avais instruits quand ils étaient perturbateurs. Ils ont aimé nos garçons comme je les avais aimés. Ces jeunes, autrefois bruyants et bagarreurs, sont devenus les héros de nos enfants. Nos fils aimaient suivre le grand exemple qu'ils ont donné en devenant de merveilleux missionnaires et en se mariant au temple avec une épouse juste. Ces jeunes gens continuent d'influencer notre famille. Il y a 2 mois, notre paroisse a fait une activité un samedi soir et a invité tout le monde, y compris les familles partiellement membres. Son Yoon, le plus jeune de nos fils, était revenu d'un camp de jeunes l'après-midi même. Il a dit qu'il n'irait pas à l'activité missionnaire parce qu'il ne faisait pas partie d'une famille partiellement membre et qu'il était très fatigué. Il n'est donc pas venu avec nous. Ma femme lui a téléphoné pour lui expliquer que tout le monde y était invité. Il a répondu, « Je sais, mais aujourd'hui, je ne viens pas. » Puis il a raccroché. Peu après le début de la soirée, Son Yoon est arrivé et s'est assis très sagement à côté de sa mère. Il lui a chuchoté. Juste après avoir accroché, je me suis souvenu que j'avais demandé un jour à papa ce qui avait fait que le quatuor à Naro avait si bien réussi dans la vie. Il m'a dit qu'ils avaient obéi aux paroles des dirigeants de l'église et assisté régulièrement aux réunions de l'église. C'est ce qui a fait que leur vie a changé et qu'ils ont tant réussi. Mon fils a poursuivi. Soudain, les paroles de mon père me sont venues à l'esprit et j'ai décidé de suivre leur exemple parce que je veux avoir une famille heureuse aussi et du succès dans la vie. Chers frères, aimons nos garçons, même si certains d'entre eux sont chahuteurs, montrons-leur comment changer. Les fils d'Élamand d'aujourd'hui ne sont pas seulement issus de nos belles familles de l'Église, mais aussi de jeunes convertis dont les parents n'ont pas l'Évangile. Votre femme et vous devez être leurs bons parents dans l'Évangile, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme les fils d'Élamand. Je suis tellement heureux de voir l'amour constant avec lequel vous dirigez vos jeunes gens. Ces jeunes gens sont tous nos fils. Si nous leur tendons la main, les édifions et les aidons, nous éprouverons la même chose que Jean qui a dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Chers jeunes gens, obéissons aux dirigeants de l'Église et faisons comme Adam, qui ne comprenait pas toujours pourquoi il devait le faire, mais qui était heureux d'obéir. Et s'il vous plaît, assistez fidèlement à vos réunions de l'Église. Si vous le faites, vous apprendrez comment vous préparer à votre avenir et vous aurez du succès. Vous, jeunes gens qui êtes dans l'Église depuis votre naissance, et vous qui vous êtes joints à elle, vous êtes l'armée du Seigneur. Vous deviendrez de formidables missionnaires et des pères justes. Notre Père Céleste vous donnera la bénédiction d'avoir une famille heureuse. Vous avez un brillant avenir dans l'Évangile. Et comme les fils d'Élamand, vous nous apporterez à tous une joie éternelle. Je vous aime. Et je sais que notre Père Céleste nous aime tous. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour être notre Rédempteur. Le président Thomas S. Monson est notre prophète vivant et nous guide sur la bonne voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter au grand prophète. Après ce chant, j'aurai le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence, s'adressera à nous. Mes chers frères, quelle vue magnifique vous êtes d'avoir cette vaste assemblée de détenteurs de la prêtrise dans le monde entier, remplit mon cœur et mon âme en parlant des garçons du Seigneur. Grâce au voyage que nous faisons pour rendre visite aux membres de l'Église de par le monde et au canal établi de la prêtrise, les dirigeants de l'Église, nous recevons un retour régulier et fréquent concernant la situation et les problèmes de nos membres. Nous savons que beaucoup de familles ont dû se serrer la ceinture en raison des désastres naturels et provoqués par l'homme, et les familles se demandent comment elles vont pouvoir surmonter ces temps difficiles. Frères, nous nous sentons très proches de vous. Nous vous aimons. Et nous prions pour vous, toujours. J'ai connu suffisamment de hauts et de bas tout au long de ma vie pour savoir que l'hiver cédera sûrement à la chaleur et à l'espoir d'un nouveau printemps. Frères, je suis optimiste pour l'avenir. Frères, pour notre part, nous devons rester fermes dans l'espérance, travailler de toutes nos forces et avoir confiance en Dieu. J'ai pensé ces derniers temps à une époque de ma vie où le poids des soucis et des préoccupations concernant les lendemains semblait toujours présent. J'avais 11 ans et je vivais avec ma famille dans le grenier d'une ferme près de Francfort en Allemagne. Nous étions des réfugiés pour la deuxième fois en quelques années seulement et nous nous efforcions de nous établir dans un nouvel endroit à 500 km de notre maison précédente. Dire que nous étions pauvres serait au-dessous de la vérité. Nous dormions tous dans une chambre qui était si minuscule qu'il y avait à peine la place de marcher autour des lits. Dans l'autre petite pièce, il y avait quelques meubles modestes et un poêle que notre mère utilisait pour faire cuire nos repas. Pour passer d'une pièce à l'autre, il fallait traverser un lieu de rangement rempli de matériel et d'instruments agricoles. Dans le même endroit, le fermier conservait un assortiment de viande et saucisses qui pendaient aux poutres. L'arôme me donnait toujours faim. Nous n'avions pas de toilette, mais il y avait un appentis au bas des escaliers et à une quinzaine de mètres de distance, distance qui semblait beaucoup plus longue en hiver. Parce que j'étais un réfugié et à cause de mon accent allemand de l'Est, les autres enfants se moquaient souvent de moi et me traitaient de noms qui me blessaient profondément. De toutes les périodes de ma jeunesse, je crois que c'est celle-là qui a dû être la plus décourageante. Maintenant, des décennies plus tard, je peux repenser à ce temps-là à travers le filtre adoucissant de l'expérience. Quoique je me rappelle toujours ma souffrance et mon désespoir, je peux voir maintenant ce que je ne pouvais pas voir alors. C'était une période de grande progression personnelle. Pendant ce temps, notre famille s'est serré les coudes. J'ai observé mes parents et appris grâce à eux. J'admirais leur détermination, leur optimisme. Ils m'ont appris que quand on affronte l'adversité avec foi, courage et ténacité, on peut la surmonter. Sachant que certains d'entre vous connaissent leur propre période d'inquiétude et de désespoir, j'ai voulu parler ce soir de deux principes importants qui m'ont soutenu pendant cette période formatrice de ma vie. Le premier principe, c'est le travail. Je suis encore impressionné aujourd'hui par la façon dont ma famille a travaillé après avoir tout perdu après la Deuxième Guerre mondiale. Je me rappelle que mon père, qui était fonctionnaire de formation d'expérience, s'est lancé dans plusieurs emplois difficiles, dont mineur de charbon, mineur d'uranium, mécanicien, conducteur de camion. Il partait tôt le matin et rentrait souvent tard le soir pour subvenir aux besoins de notre famille. Ma mère avait ouvert une blanchisserie et travaillait des heures innombrables à des tâches serviles. Elle nous a enrôlés, ma sœur et moi, dans son entreprise. Avec mon vélo, je suis devenu le service de collecte et de livraison. J'étais content de pouvoir aider la famille, si peu que ce soit. Eh bien, que je ne l'ai pas su alors, le travail physique s'est également avéré être une bénédiction pour ma santé. Ce n'était pas facile, mais le travail m'a empêché de trop m'apesantir sur les difficultés de notre situation. Notre situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais elle a changé. C'est cela, la vertu du travail. Si nous nous y tenons tout simplement, de manière régulière et constante, les choses commencent à s'améliorer inévitablement. Comme j'admire les hommes, les femmes et les enfants qui savent travailler. Comme le Seigneur aime le travailleur, il a dit, « C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. » Et l'ouvrier est digne de son salaire. Il a aussi promis, « Lance ta faucille de toute ton âme, et tes péchés te sont pardonnés. » Les gens qui n'ont pas peur de remonter leurs manches et de se lancer à fond dans la quête de buts de valeur sont une bénédiction pour leur famille, leur ville, leur pays et l'Église. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous travaillions plus dur que nous le pouvons. Il ne compare pas, et nous ne le devrions pas non plus, nos efforts à ceux des autres. Notre Père Céleste demande seulement que nous fassions de notre mieux, que nous travaillions au maximum de nos capacités, aussi grandes ou petites soient-elles. Le travail est une antidote à l'anxiété, un onguent pour la douleur et un portail vers les possibilités. Quelle que soit notre situation, mes chers frères, faisons de notre mieux et tâchons de mériter une réputation d'excellence dans tout ce que nous faisons. Soyons prêts, d'esprit et de corps, à saisir la magnifique possibilité de travailler que nous offre chaque nouvelle journée. Quand un chariot s'embourbe, il y a beaucoup plus de chances pour que Dieu aide l'homme qui descend pour pousser que celui qui se contente d'élever la voix en prière, aussi éloquent soit-il. Le président Monson l'a dit comme ceci, « Il n'est pas suffisant de vouloir faire l'effort et de dire que nous le ferons. C'est en agissant, pas seulement en pensant, que nous atteignons nos objectifs. Si nous remettons sans cesse nos objectifs à plus tard, jamais nous ne les atteindrons. » Fin de citation. Le travail peut être ennoblissant et enrichissant, mais souvenez-vous de la mise en garde du Seigneur. Ne dépensez pas votre labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Si nous nous consacrons à la quête de la richesse profane et du clinquant des louanges publiques aux dépens de notre famille et de notre progression spirituelle, nous ne tarderons pas à nous apercevoir que nous avons conclu un marché de dupes. Le travail de justice que nous effectuons au sein de notre maison est le plus sacré. Ses avantages sont de nature éternelle. Il ne peut pas être délégué. C'est la base de notre travail de détenteur de la prêtrise. Rappelez-vous que nous ne sommes que des voyageurs de passage dans ce monde. Ne consacrons pas les talents et l'énergie que Dieu nous a donnés uniquement à édifier des ancrages terrestres. Passons plutôt nos journées à faire pousser nos ailes spirituelles. Car nous, qui sommes fils du Dieu Très-Haut, nous avons été créés pour nous envoler vers de nouveaux horizons. Maintenant, un mot à vous, frère Chevronné. La retraite ne fait pas partie du plan du bonheur du Seigneur. Il n'y a pas d'année sabbatique, ni de programme de retraite par rapport aux responsabilités de la prêtrise, quel que soit l'âge ou les capacités physiques. Si l'expression « je connais, j'ai déjà fait ça » peut servir d'excuse pour éviter de faire du skateboard, laisser tomber une occasion de faire du parapente ou refuser le curry épicé au restaurant, ce n'est pas une excuse acceptable pour éviter la responsabilité contractée par alliance de consacrer notre temps, nos talents et nos ressources à l'œuvre du royaume de Dieu. Il peut y en avoir qui, après de nombreuses années de service dans l'Église, croient qu'ils ont droit à une période de repos, tandis que d'autres tirent la charge. Pour le dire brutalement, mes frères, cette façon de penser est indigne de disciples du Christ. Une grande partie de notre œuvre sur cette terre consiste à persévérer jusqu'à la fin joyeusement chaque jour de notre vie. Jusqu'à la fin. Maintenant, un mot également à nos plus jeunes frères de la prêtrise de Melchisédek qui poursuivent leurs objectifs justes de faire des études et de trouver un conjoint pour l'éternité. Ce sont les bons buts, mes frères. Mais rappelez-vous, le fait de travailler diligemment dans la vigne du Seigneur améliorera grandement votre curriculum vitae et augmentera la probabilité de succès dans ces deux entreprises louables. Que vous soyez le diacre le plus jeune ou le grand prêtre le plus âgé, il y a du travail à faire. Deuxième principe à présent, apprenez. Apprenez. Dans la situation économique difficile de l'Allemagne d'après-guerre, les possibilités de faire des études n'étaient pas aussi abondantes qu'aujourd'hui. Mais malgré les options limitées, j'ai toujours eu le désir ardent d'apprendre. Je me rappelle qu'un jour que j'étais sur mon vélo à livrer le linge, je suis entré chez un de mes camarades de classe. Dans une des pièces, deux petits pupitres d'écoliers étaient nichés contre le mur. Quel spectacle merveilleux c'était! Quelle chance ils avaient, ces enfants, d'avoir un petit pupitre à eux. Je pouvais les imaginer étudiant leurs leçons, les livres ouverts et faisant leurs devoirs. Il me semblait qu'avoir un pupitre à moi serait la chose la plus merveilleuse au monde. J'ai dû attendre longtemps pour que mon vœu se réalise. Des années plus tard, j'ai trouvé un emploi dans un établissement de recherche qui avait une grande bibliothèque. Je me rappelle avoir passé beaucoup de mon temps libre dans cette bibliothèque. Là, je pouvais finalement m'asseoir à un bureau, tout seul, et m'abreuver des informations et de la connaissance que les livres fournissent. Comme j'ai aimé lire et apprendre. C'est alors que j'ai compris par expérience personnelle le vieil adage, l'instruction n'est pas tant le remplissage d'un seau que l'allumage d'un feu. Pour les membres de l'Église, l'instruction n'est pas simplement une bonne idée, c'est un commandement. Nous devons apprendre les choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les choses qui ont été, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver sous peu, les choses qui se passent au pays, les choses qui se passent à l'étranger. Joseph Smith aimait apprendre, quoiqu'il ait eu peu d'occasion d'avoir une scolarité. Dans ses journaux intimes, il parle avec bonheur des jours passés à étudier et exprime souvent son amour de l'étude. Joseph enseignait aux saints que la connaissance constitue un élément nécessaire de notre parcours dans la condition mortelle, car on ne peut être sauvé sans connaissance. Et que quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection. Dans les temps de détresse, il est encore plus important d'apprendre. Le prophète Joseph enseignait « La connaissance met fin aux ténèbres, à l'anxiété et aux doutes, car ils ne peuvent exister là où il y a de la connaissance. Mes frères, vous avez le devoir d'apprendre autant que vous pouvez. S'il vous plaît, recommandez à votre famille, aux membres de votre collège, à tout le monde, d'apprendre et à devenir plus instruit. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des études ordinaires, que cela ne vous empêche pas d'acquérir toute la connaissance que vous pouvez obtenir. Dans de telles circonstances, les meilleurs livres, dans un sens, peuvent devenir votre université, une salle de classe qui est toujours ouverte et admet tous ceux qui se présentent. Efforcez-vous d'accroître votre connaissance de tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Recherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Recherchez-la le cœur humble et l'esprit contrit. En appliquant la dimension spirituelle de la foi à votre étude, même des choses temporelles, vous pouvez amplifier vos capacités intellectuelles, car si vous avez l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Et ce corps qui est rempli de lumière comprend tout. Dans notre étude, ne négligeons pas la source de la révélation. Les Écritures et les paroles des apôtres et des prophètes modernes sont les sources de la sagesse, de la connaissance divine et de la révélation personnelle où trouver la réponse à toutes les difficultés de la vie. Apprenons auprès du Christ. Recherchons cette connaissance qui mène à la paix, à la vérité et au mystère sublime de l'éternité. Mes chers frères, je repense au garçon de 11 ans de Francfort en Allemagne qui se préoccupait de son avenir et qui sentait la douleur cuisante des réflexions méchantes. Je me rappelle cette époque avec une sorte d'affection triste. Je n'aimerais pas revivre ces jours éprouvants et perturbés, mais je ne doute pas un seul instant que les leçons que j'ai apprises pendant cette période difficile ont été une préparation nécessaire aux possibilités que l'avenir me réservait. Maintenant, bien des années plus tard, il y a une chose que je sais avec certitude. C'est souvent dans l'adversité que nous apprenons les leçons les plus essentielles qui forment notre personnalité et façonnent notre destin. Je prie pour que pendant les mois et les années à venir, nous puissions remplir nos heures et nos journées de travail noble et juste. Je prie pour que nous cherchions à apprendre et à éduquer notre esprit et notre cœur en nous abreuvant aux sources pures de la vérité et de la connaissance. Je vous assure de mon amour et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Wherever I am, in the day or night,
quel que soit l'endroit où je me trouve, le jour ou la nuit, j'ai à proximité un petit flacon d'huile d'olive. Voici celui que je garde dans un tiroir du bureau sur lequel je travaille. J'ai un bureau.
There is one in my pocket.
J'en garde un dans ma poche lorsque je travaille à l'extérieur ou que je voyage. J'en garde un également chez moi, dans le buffet de la cuisine.
The one I hold now has a date on it.
Celui que je tiens en ce moment porte une date. C'est celle du jour où quelqu'un a exercé le pouvoir de la prêtrise pour consacrer de l'huile pure pour la bénédiction et la guérison des malades. Les jeunes gens de la prêtrise d'Aaron et même leur père, peuvent penser que j'exagère un peu dans ma préparation. Mais l'appel dans la journée ou les coups à la porte viennent toujours par surprise. Quelqu'un nous demandera, « S'il vous plaît, pouvez-vous venir rapidement ?» Un jour, il y a des années, un père a appelé d'un hôpital. Sa fille de 3 ans avait été renversée par une voiture qui l'avait projetée 15 mètres plus loin alors qu'elle traversait la rue en courant pour rejoindre sa mère. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, le père a supplié que le pouvoir de la prêtrise préserve sa vie. Avec réticence, les médecins et les infirmières nous ont laissé atteindre la seule ouverture des épais bandages qui enveloppait sa tête par une barrière de plastique pour y déposer une goutte d'huile. Un médecin m'a dit avec de l'irritation dans la voix, « Dépêchez-vous de faire ce que vous allez faire, elle est en train de mourir. » Il se trompait. Elle a survécu. Contrairement à ce que le docteur avait dit, et elle a réappris à marcher. Lorsque l'appel est venu, j'étais prêt. La préparation consistait en bien plus qu'avoir de l'huile consacrée à portée de main. Elle doit commencer longtemps avant la crise qui nécessite le pouvoir de la prêtrise. Ceux qui sont préparés seront prêts à répondre. La préparation commence en famille, dans les collèges de la prêtrise d'Aaron et surtout dans la vie privée des jeunes gens. Les collèges et les familles doivent aider. Mais la préparation qui importe devra être faite par les jeunes gens qui choisissent de se montrer à la hauteur de leur grande destinée de serviteurs de la prêtrise pour Dieu. La destinée de la génération montante de détenteurs de la prêtrise consiste en bien plus qu'être prêt à faire intervenir la puissance de Dieu pour guérir les malades. La préparation consiste à être prêt, à aller faire ce que le Seigneur veut accomplir, tandis que le monde se prépare à sa venue. Aucun de nous ne sait exactement quoi consistera ces tâches, mais nous savons ce qu'il nous faut faire pour être prêts, afin que chacun d'entre nous se prépare. Vous aurez développé ce dont vous aurez besoin au moment opportun par l'accomplissement constant du service obéissant. Je vais vous indiquer 2 des choses dont vous aurez besoin et la préparation nécessaire pour être prêt. La première est d'avoir la foi. La prêtrise est l'autorité d'agir au nom de Dieu. C'est le droit de faire intervenir les pouvoirs du ciel. Ainsi, vous devez avoir foi que Dieu vit et que vous avez gagné sa confiance pour vous permettre d'utiliser son pouvoir pour ses desseins. Un exemple tiré du livre de Mormon vous aidera à voir comment un homme s'est préparé. Il y avait un détenteur de la prêtrise du nom de Néphi à qui le Seigneur avait donné une tâche difficile. Dieu l'avait envoyé pour appeler des méchants au repentir avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Dans leur méchanceté, leur haine, ils s'entretuaient. Même leur chagrin ne leur avait pas donné assez d'humilité pour se repentir et obéir à Dieu. Parce que Néphi s'était préparé, Dieu lui accordait le pouvoir d'accomplir cette tâche. Dans les paroles empreintes d'amour et de pouvoir qu'il a adressées à Néphi, nous trouvons un guide. « Béni es-tu, Néphi, pour les choses que tu as faites, car j'ai vu que tu as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t'ai donnée. » Et tu ne l'as pas craint, et n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais tu as cherché à faire ma volonté et à garder mes commandements. Et maintenant, parce que tu as fait cela aussi inlassablement. Voici, je te bénirai à jamais, et je te rendrai puissant en parole et en acte, en foi et en œuvre. Oui, de sorte que tout te sera fait selon ta parole. Car tu ne demanderas pas ce qui est contraire à ma volonté. Voici, tu es Néphi et je suis Dieu. Voici, je te déclare, en la présence de mes anges, que tu auras du pouvoir sur ce peuple et frapperas la terre de famine et de peste et de destruction selon la méchanceté de ce peuple. Voici, je te donne du pouvoir pour que tout ce que tu scelleras sur la terre soit scellé au ciel et que tout ce que tu délieras sur la terre soit délié au ciel et ainsi tu auras du pouvoir parmi ce peuple. Comme nous le dit ce récit du livre de Mormon, le peuple ne s'est pas repenti. Alors Néphi a demandé à Dieu de changer les saisons. Il a demandé un miracle pour aider les gens à choisir de se repentir à cause de la famine. La famine est venue. Le peuple s'est repenti. Il a demandé à Néphi de demander à Dieu d'envoyer la pluie. C'est ce qu'a fait Néphi. Et Dieu a honoré sa foi inébranlable. Cette foi n'est pas venue au moment où Néphi en avait besoin. Pas plus que la confiance de Dieu en Néphi. Il a obtenu cette grande foi et la confiance de Dieu par un travail courageux et soutenu au service de Dieu. Jeunes gens, vous êtes en train d'édifier cette foi maintenant, pour les jours à venir où vous en aurez besoin. Ce peut être une petite tâche, comme la rédaction minutieuse du procès-verbal dans un collège de diacres ou d'instructeurs. Il y a des années, des jeunes gens ont tenu méticuleusement des comptes rendus de ce qui avait été décidé et ce qui avait été fait par des garçons qui n'avaient que quelques mois de plus qu'eux. Il a fallu de la foi pour que Dieu appelle même à son service des garçons de 12 ans qui étaient guidés par la révélation. Certains de ces secrétaires de collège d'il y a longtemps sont maintenant assis dans les conseils présidents de l'Église. Ils lisent maintenant les comptes rendus que d'autres préparent. Et ils reçoivent des révélations maintenant, comme les dirigeants qu'ils ont servis quand ils étaient jeunes, comme vous. Ils avaient été préparés à avoir confiance que Dieu révèle sa volonté dans son royaume, même dans des choses qui paraissent petites. Le Seigneur a dit qu'il pouvait avoir confiance en Néphi, car il ne demandait rien de contraire à la volonté de Dieu. Pour avoir cette confiance en Néphi, le Seigneur devait s'assurer que Néphi croyait en la révélation, qu'il la recherchait et qu'il la suivait. Avoir suivi pendant longtemps l'inspiration de Dieu faisait partie de la préparation à la prêtrise de Néphi. Elle doit faire partie de la vôtre. Je vois cela se produire aujourd'hui. Ces mois derniers, j'ai entendu des diacres, des instructeurs et des prêtres faire des discours qui sont clairement aussi inspirés et aussi puissants que ceux que vous entendrez lors de la conférence générale. Lorsque j'ai ressenti le pouvoir donné aux jeunes détenteurs de la prêtrise, j'ai pensé que la génération montante se lève autour de nous, comme une marée montante. Ma prière est que ceux d'entre nous et moi-même, qui appartiennent aux générations précédentes, s'élèveront dans la marée avec eux. La préparation de la prêtrise d'Aaron est une bénédiction pour nous tous, ainsi que pour les personnes qu'ils serviront dans leur génération et dans les générations à venir. Cependant, tout n'est pas parfait en Sion. Tous les jeunes gens ne choisissent pas de se préparer. Ce choix doit être le leur. Et ils sont responsables d'eux-mêmes. C'est la manière du Seigneur dans son plan d'amour. Mais de nombreux jeunes gens ont peu ou pas de soutien de la part des personnes qui pourraient les aider à se préparer. Ceux d'entre nous qui peuvent aider seront tenus pour responsables par le Seigneur. Un père qui néglige ou gêne le développement de la foi de son fils ou sa capacité de suivre l'inspiration connaîtra un jour le chagrin. Ce sera vrai pour quiconque détient un poste qui lui donne le devoir d'aider ces jeunes gens à faire des choix sages et bons pendant la période où ils détiennent la prêtrise préparatoire. Maintenant, la deuxième chose dont ils auront besoin est la confiance qu'ils peuvent se montrer à la hauteur des bénédictions et de la confiance que Dieu leur a offerte. La plupart des influences qui les entourent les conduisent à douter de l'existence de Dieu, de son amour pour eux, et de la réalité des messages paisibles qu'ils reçoivent parfois du Saint-Esprit et de l'Esprit du Christ. Leurs camarades peuvent les inciter à choisir de pécher. S'ils choisissent de pécher, les messages de Dieu deviendront plus faibles. Nous pouvons les aider à choisir de se préparer en les aimant, en les mettant en garde, et en leur montrant que nous leur faisons confiance. Mais nous pouvons les aider encore plus en étant un exemple de serviteurs fidèles et inspirés. Dans notre famille, dans les collèges, dans les classes, et dans n'importe quel cadre où nous nous trouvons en leur compagnie, nous pouvons agir comme de vrais détenteurs de la prêtrise, qui utilisent ce pouvoir comme Dieu nous l'a enseigné. En ce qui me concerne, cette instruction est la plus claire dans la section 121 des Doctrines et Alliances. Le Seigneur nous y recommande d'avoir des motivations pures. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Lorsque nous dirigeons ces jeunes gens, ou sommes une influence pour eux, nous ne devons jamais agir dans le but d'assouvir notre orgueil ou notre ambition. Nous ne devons jamais exercer de contrainte avec le moindre degré d'injustice. C'est là le niveau élevé d'exemple que nous devons montrer à nos jeunes. Je l'ai vu faire lorsque j'étais instructeur et prêtre. Mon évêque et les frères qui servaient sous son autorité étaient déterminés à ne perdre aucun d'entre nous. D'après ce que j'ai vu, leur détermination était motivée par leur amour pour Dieu et pour nous, et pas pour un quelconque but égoïste. L'évêque avait un système. Chaque consultant de chaque collège devait prendre contact avec chaque jeune homme avec qui il n'avait pas parlé ce dimanche-là. Il n'allait pas se coucher tant qu'il n'avait pas parlé au garçon absent, à ses parents ou à un ami proche. L'évêque leur avait promis qu'il n'éteindrait pas sa lumière tant qu'il n'aurait pas eu des nouvelles de chaque garçon. Je ne pense pas qu'il leur ait donné un ordre. Il leur a simplement expliqué qu'il ne voulait pas qu'ils éteignent leur lumière tant qu'ils n'avaient pas fait rapport. Les frères qui servaient sous son autorité lui-même faisaient plus que veiller sur nous. Ils nous montraient par l'exemple ce que signifie prendre soin des brebis du Seigneur. Aucun effort n'était trop grand pour lui ou pour les frères qui nous servaient dans nos collèges. Par leur exemple, ils nous ont enseigné ce que signifiait servir inlassablement le Seigneur. Le Seigneur nous préparait par l'exemple. Je ne sais absolument pas s'il pensait que nous deviendrions des personnes spéciales, mais il nous traitait comme s'il le pensait, en étant disposé à payer de leur personne pour nous empêcher de perdre la foi. Je ne sais pas comment l'évêque a pu faire en sorte que tant de gens aient de si grandes attentes. Pour autant que je le sache, cela s'est fait par la persuasion, par la longanimité, la gentillesse et la douceur et l'amour sincère. La méthode de ne pas éteindre la lumière que l'évêque a utilisée ne fonctionnerait pas dans certains endroits, mais l'exemple qu'il a montré, en se souciant de chaque jeune homme et en lui venant en aide rapidement, a apporté le pouvoir des cieux dans notre vie. Ce sera toujours le cas. Cela a aidé des jeunes gens à se préparer pour les jours où Dieu a eu besoin d'eux dans des familles et dans son royaume. Mon père a été pour moi l'exemple de ce que le Seigneur enseigne dans la section 121 des Doctrines et Alliances, sur la manière d'obtenir l'aide des cieux dans la préparation des jeunes gens. Pendant ma jeunesse, il a été parfois déçu de ma conduite. Il me le disait. Dans sa voix, je sentais qu'il pensait que je valais mieux que ça. Il faisait à la manière du Seigneur, réprimandant avec rigueur, en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. Je savais, même après la correction la plus directe, que mon père me réprimandait avec amour. En fait, son amour semblait augmenter lorsqu'il utilisait sa correction la plus forte, qui consistait en un regard réprobateur et déçu. Il était mon dirigeant et mon formateur. Il n'a jamais utilisé de moyens de contrainte, et je suis sûr que la promesse donnée dans les Doctrines et Alliances s'accomplira pour lui. Son influence sur moi affluera vers lui, pour toujours et à jamais. Lorsqu'ils entendront les paroles de la section 121 des Doctrines et Alliances, de nombreux pères et de nombreux dirigeants ressentiront qu'ils devront faire plus d'efforts pour atteindre ce principe. C'est ce que je ressens. Vous souvenez-vous d'une fois où vous avez réprimandé un enfant ou un jeune avec rigueur et que vous l'avez fait pousser par autre chose que l'inspiration? Vous souvenez-vous d'une fois où vous avez dit à votre fils de faire quelque chose ou de faire un sacrifice que vous n'étiez pas prêt à faire vous-même? Les regrets peuvent nous pousser au repentir pour nous rapprocher des exemples que nous avons fait alliance d'être. En remplissant nos obligations de père et de dirigeant, nous aiderons la prochaine génération à atteindre son avenir glorieux. Ils seront meilleurs que nous tout comme vous avez essayé d'être de meilleurs parents que vos parents et de meilleurs dirigeants que les grands dirigeants qui vous ont aidés. C'est ma prière que nous soyons déterminés à faire mieux tous les jours pour préparer la génération montante. Chaque fois que je verrai un flacon d'huile consacré, je me souviendrai de ce soir et du désir que j'éprouve à présent de faire mieux pour aider les jeunes gens à se préparer pour leurs jours de service et de possibilités. Je prie pour qu'ils soient bénis dans leur préparation. Je suis certain qu'avec l'aide du Seigneur et la nôtre, ils seront prêts. Je vous témoigne que Dieu le Père vit et que Jésus-Christ vit et qu'il dirige son Église. Il est l'exemple parfait de la prêtrise. Le président Monson détient et exerce toutes les clés de la prêtrise sur terre. Cela est vrai. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères, nous vous rappelons que l'émission du cœur du tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le cœur de la prêtrise de la belle musique qu'il a interprétée, ainsi que les frères qui nous ont adressé la parole ce soir. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Rise up, O man of God ». Ensuite, Lance B. Wickman, des 70, fera la prière de clôture. Président Monson.
You're a wonderful sight.
Quelle vue magnifique vous faites. Ce que je puis voir. Je pense à tous ceux qui sont avec nous par la télévision et par tous les autres moyens. Mes frères, nous sommes assemblés tant ici, au centre de conférence, que dans le monde entier, et formons un groupe impressionnant de détenteurs de la prêtrise. Ce soir, nous avons entendu des messages inspirés. Et je peux en témoigner. Je remercie les frères qui se sont adressés à nous. C'est pour moi un honneur, bien que redoutable, de m'adresser à vous. Et je prie pour être inspiré par le Seigneur. Récemment, en regardant les nouvelles à la télévision, je me suis rendu compte que bon nombre des gros titres se ressemblaient, en ce sens que les drames rapportés découlaient principalement tous du même sentiment. La colère. Le père d'un bébé avait été arrêté pour des sévices physiques sur celui-ci. On disait que les pleurs du bébé l'avaient tellement exaspéré qu'il lui avait cassé un membre et plusieurs côtes. Le rapport sur l'augmentation de la violence des gangs était alarmant de par la montée importante du nombre de meurtres commis par eux. Un autre fait divers, ce soir-là, racontait qu'une femme avait été abattue par son mari, dont elle était séparée, qui, disait-on, a fait une crise de jalousie en la trouvant avec un autre homme. Puis, bien sûr, il y avait les reportages habituels sur les guerres et les conflits du monde entier. J'ai pensé aux paroles du psalmiste, « Laisse la colère, abandonne la fureur ». Il y a de nombreuses années, un jeune couple a téléphoné à mon bureau pour demander s'ils pouvaient venir me consulter. Les conjoints disaient qu'il y avait eu un drame dans leur vie et que leur mariage était sérieusement en danger. Rendez-vous fut pris. La tension entre ce mari et cette femme a été perceptible dès leur entrée dans mon bureau. Il leur a d'abord fallu du temps pour raconter leur histoire, car le mari parlait de façon hésitante et la femme pleurait doucement et participait très peu à la conversation. Le jeune homme était rentré de mission et en avait été accepté dans une université prestigieuse de l'Est des États-Unis. C'est là, dans une paroisse universitaire, qu'il avait rencontré sa future femme. Elle était aussi étudiante à l'université. Après un an de fréquentation, ils se sont rendus en Utah et se sont mariés au temple de Salt Lake City. Peu de temps après, ils sont repartis dans l'Est terminer leurs études. Lorsque les études terminées, ils sont retournés dans leur état d'origine, ils attendaient leur premier enfant. Et le mari avait du travail dans la spécialité qu'il avait choisie. La femme a mis au monde un petit garçon. La vie était bonne, belle. Lorsque leur fils a eu environ 18 mois, ils ont décidé de prendre de courtes vacances pour rendre visite à des membres de la famille qui habitaient à quelques centaines de kilomètres. C'était à l'époque où les sièges auto pour les enfants et les ceintures de sécurité pour les adultes étaient à peine connus et encore moins utilisés. Les trois membres de la famille étaient tous assis sur la banquette avant, l'enfant au milieu. Au cours du voyage, le mari et la femme ont eu un différend. Après toutes ces années, je ne me souviens plus à quel sujet, mais je me souviens que leur dispute s'est aggravée et s'est tellement échauffée qu'ils en sont arrivés à se crier dessus. Évidemment, leur jeune fils a commencé à pleurer. Ce qu'a dit le père n'a fait qu'ajouter à sa colère. N'étant plus du tout maître de lui, il a pris un jouet que l'enfant avait laissé tomber sur le siège et l'a lancé vers sa femme. Il l'a raté. Mais le jouet a heurté leur fils, causant un traumatisme crânien qui allait l'handicaper pour le reste de sa vie. C'est l'une des situations les plus tragiques que j'ai jamais rencontrées. Je leur ai prodigué des conseils et des encouragements. Nous avons parlé d'engagement et de responsabilité, d'acceptation et de pardon. Nous avons parlé de l'affection et du respect qui devaient revenir dans leur famille. Nous avons lu des paroles de réconfort dans les Écritures. Nous avons prié ensemble. Je n'ai plus de leurs nouvelles depuis ce jour fort lointain, mais ils souriaient à travers leurs larmes en quittant mon bureau. Toutes ces années, j'ai espéré qu'ils ont pris la décision de rester ensemble, réconfortés et bénis par l'Évangile de Jésus-Christ. Je pense à eux chaque fois que je lis ces paroles. La colère ne résout rien. Elle ne construit rien. Mais peut tout détruire. Nous avons tous éprouvé de la colère. Cela peut arriver lorsque les choses ne vont pas comme nous le voulons. Ce peut être une réaction à quelque chose qui nous est dit ou sur nous. Nous pouvons la ressentir lorsque des gens ne se comportent pas comme nous le voulons. Elle survient peut-être lorsque nous devons attendre quelque chose plus longtemps que prévu. Nous pouvons éprouver de la colère lorsque d'autres personnes n'arrivent pas à voir les choses de notre point de vue. Il semble y avoir d'innombrables raisons à la colère. Parfois, nous pouvons être contrariés par des torts imaginaires ou ce que nous percevons comme des injustices. Et Brigham Young, 7e président de l'Église, a raconté que lorsqu'il était jeune adulte, il avait travaillé pour un homme qui lui avait alors envoyé un chèque de $500 avec une lettre lui demandant de l'excuser de ne pas pouvoir lui donner davantage. Puis le président Grant a travaillé pour un autre homme, un travail qu'il a dit être 10 fois plus difficile, qui nécessitait 10 fois plus de travail et beaucoup plus de temps. Ce deuxième homme lui avait envoyé un chèque de $150. Le jeune Heber s'est senti très injustement traité. Il a tout d'abord été offensé, puis furieux. Il a raconté son expérience à un ami plus âgé qui lui a demandé « Cet homme avait-il l'intention de t'offenser ?» Le président Grant a répondu « Non ». Il a dit à mes amis qu'il m'avait rétribué généreusement. À quoi son ami plus âgé lui a répondu « Un homme qui se croit offensé sans qu'il y eût intention de le faire est un insensé. » Fin de citation. L'apôtre Paul demande dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, la traduction de Joseph Smith, « Pouvez-vous mettre en colère et ne pas pécher? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je vous le demande, est-il possible de ressentir l'esprit de notre Père Céleste lorsque nous sommes en colère? Je ne connais aucune situation dans laquelle ce serait le cas. Dans 3 Néphi, dans le livre de Mormon, nous lisons, « Il n'y aura plus de controverse parmi vous, car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, ce n'est pas ma doctrine d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Être en colère, c'est céder à l'influence de Satan. Personne ne peut nous mettre en colère. C'est notre choix. Si nous voulons tout le temps avoir un bon esprit, nous devons nous retenir, choisir de nous retenir, de nous mettre en colère. Je témoigne que c'est possible. La colère, l'outil de Satan, est d'instructrice de bien des manières. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent la triste histoire de Thomas B. Marsh et d'Elisabeth, sa femme. Frère Marsh a été l'un des premiers apôtres de notre époque à être appelé après le rétablissement de l'Église sur la terre. Et il est par la suite devenu le président du Collège des 12 apôtres. Lorsque les saints étaient à Far West, Missouri, Elisabeth Marsh, la femme de Thomas, et son amie, sœur Harris, ont décidé d'échanger leur lait pour pouvoir faire plus de fromage qu'elle ne l'aurait pu autrement. Pour être sûre que tout soit fait équitablement, elles se sont mises d'accord de ne pas garder ce qui s'appelait la crème du lait, mais que le lait et sa crème seraient remis ensemble. Cette crème venait à la fin de la traite et était plus riche. Sœur Harris a été fidèle à l'accord. Mais Sœur Marsh, désirant faire un fromage particulièrement savoureux, gardait une pinte de crème de chaque vache. Elle n'envoyait à Sœur Harris que le lait sans la crème. Ce qui amena les deux femmes à se quereller. Ne réussissant pas à régler leurs différends, elles portèrent l'affaire devant les instructeurs au foyer. Ils déclarèrent Elisabeth Marsh coupable d'avoir rompu son accord. Son mari et elle furent irrités par la décision, et le problème fut alors déféré à l'évêque pour un tribunal de l'Église. L'évêque décida que la crème était gardée à tort, et que Sœur Marsh avait rompu son accord avec Sœur Harris lors de ce tribunal. Thomas Marsh en appela au grand conseil, et les hommes qui formaient ce conseil confirmèrent la décision de l'évêque. Il fit alors appel à la première présidence de l'Église. Joseph Smith et ses conseillers examinèrent l'affaire et soutinrent la décision du grand conseil. Thomas B. Marsh, qui avait pris parti pour sa femme dans tout cela, est devenu de plus en plus furieux après chaque décision. Si furieux, en fait, qu'il alla voir un magistrat et jura que les Mormons étaient hostiles à l'État du Missouri. Sa déclaration sous serment fut la cause, ou au moins un facteur, de l'ordre cruel d'extermination lancé par le gouverneur Lilburn Boggs, dont le résultat fut plus que de 15 000 saints furent chassés de chez eux, avec toutes les terribles souffrances et les décès qui s'ensuivirent. Tout cela à cause d'un désaccord sur un échange de lait et de crème. Après 19 ans de rancœur et de perte, Thomas B. Marsh fit le chemin jusqu'à la vallée du lac Salé et demanda à Brigham Young de lui pardonner. Frère Marsh écrivit également à Heber C. Kimball, premier conseiller dans la première présidence, concernant la leçon qu'il avait apprise. Il dit, « Le Seigneur pouvait très bien se passer de moi, et il n'a rien perdu quand j'ai quitté l'Église. Mais comme j'ai été perdant. » J'ai perdu des richesses plus grandes que ce que ce monde tout entier ou de nombreuses planètes comme celle-ci pouvait offrir. Voici les paroles pleines d'à propos du poète John Greenleaf Whittier. De tous les mots tristes que l'on puisse prononcer ou écrire, les plus tristes sont ceux-ci. Cela aurait pu être. Mes frères, nous sommes tous susceptibles d'éprouver ces sentiments qui, si nous ne leur laissons libre cours, peuvent mener à la colère. Nous ressentons du mécontentement, de l'irritation, de l'antagonisme. Et si nous laissons faire, nous perdons notre sang-froid et nous nous mettons en colère contre d'autres personnes. Ironiquement, ces autres personnes sont souvent des membres de notre famille, les personnes qu'en fait nous aimons le plus. Il y a de nombreuses années, j'ai lu la dépêche suivante de la société de presse parue dans le journal. Et je cite, « Un vieil homme a révélé aux funérailles de son frère, avec lequel il avait partagé depuis le début de l'âge adulte, une cabane d'une pièce près de Canisteo dans l'État de New York, que suite à une dispute, ils avaient partagé, ses deux frères, la pièce en deux, par une ligne à la craie, et qu'aucun d'eux n'avait franchi cette ligne ni d'une parole à l'autre depuis ce jour-là, 62 ans plus tôt. » Fin de citation. Réfléchissez aux conséquences de cette colère. Quelle tragédie! Puissions-nous prendre consciemment la décision, chaque fois qu'une telle décision doit être prise, d'éviter de nous mettre en colère et de ne pas prononcer les choses dures et blessantes que nous pouvons être tentés de dire. J'aime les paroles du cantique écrit par Charles W. Penrose, qui a fait partie du Collège des Douze et de la première présidence dans les premières années du XXe siècle. Les voici. Sois vainqueur de tes sentiments. Apprends à les maîtriser. L'impulsion de tes jugements, sagement, sage apaisé. Il possède un très grand pouvoir, l'esprit qui est calme et froid. La passion détruit tout espoir de voir triompher le droit. Chacun de nous est détenteur de la prêtrise de Dieu. Le serment et l'alliance de la prêtrise s'appliquent à nous tous. Pour les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, c'est la déclaration de l'obligation qui est la nôtre d'obéir fidèlement aux lois de Dieu et de magnifier les appels que nous recevons. Pour vous, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, c'est une déclaration de devoirs et de responsabilités à venir, afin que vous puissiez vous préparer dès maintenant. Ce serment et cette alliance sont formulés par le Seigneur en ces termes. Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leur appel sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé. Ils deviennent les fils de Moïse et d'Aaron, la postérité d'Abraham, l'Église et le royaume et les élus de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur. Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit mon Père. Et celui qui reçoit mon Père reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera donné. Frères, de grandes promesses nous attendent si nous sommes fidèles au serment et à l'alliance de cette précieuse prêtrise que nous détenons. Soyons de dignes fils de notre Père céleste. Soyons toujours exemplaires dans notre foyer et fidèles à respecter tous les commandements, afin de n'entretenir aucune animosité envers personne, mais au contraire, d'être des artisans de la paix. Nous souvenons toujours de l'exhortation du Sauveur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fin de citation. C'est là mon appel, ma supplique, ma prière, lors de cette belle réunion de prêtrise. Et c'est mon désir. Je vous aime, frère, de tout mon cœur. Et je prie que la bénédiction de notre Père Céleste soit avec vous, chacun d'entre vous, dans vos vies, dans vos foyers, dans vos cœurs, dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Notre Père céleste bien-aimé, nous sommes assemblés dans de nombreux endroits ce soir et nous rassemblons à la fin de cette magnifique expérience d'inspiration, d'unité. Nous t'exprimons notre profonde reconnaissance pour la sagesse et l'aspect pratique des conseils que nous avons reçus ce soir. Et surtout, nous te remercions pour l'esprit qui a rempli notre âme. Et au moment de partir, de quitter cette réunion, nous te prions, Père, de nous aider à le faire dans la réflexion, afin que nous rentrions en tout sain et sauf chez nous, et que ce que nous ferons chez nous soit à la mesure de ce que nous avons ressenti ce soir. Nous te sommes reconnaissants, Père, d'être des hommes de Dieu, de détenir la prêtrise. Nous te prions de nous accorder d'être meilleurs que ce que nous étions avant de venir ce soir ici, afin que nous soyons véritablement des hommes d'honneur, des hommes droits, des hommes investis de ta puissance. Nous terminons maintenant cette réunion avec reconnaissance et au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.